Le manche disque. L'émission qui tourne,
qui tourne, qui tourne, qui tourne.
À 33 tours minutes.
Salut à vous les manches disques, c'est Nico et Julien. Merci de nous retrouver en ce lundi soir en 7h. Tardive sur le 101.5 de Radio G en direct pour cette 12e émission du Manche Disque, l'émission du disque vinyle. Alors, on vous a préparé un programme plutôt ambitieux en termes de timing, avec bien sûr, comme d'habitude, l'écoute des morceaux de nos collections directement à partir des platines du studio, mais aussi une petite rubrique tout à l'heure sur le matériel nécessaire à l'écoute des disques vinyles et plus particulièrement sur ce qu'on appelle la chaîne du son. On en parle tout à l'heure. Bien sûr, nous terminerons l'émission, comme d'habitude, avec l'interview de notre invité du soir qui nous offrira un témoignage sur sa passion pour le disque vinyle, et Dieu sait qu'elle est grande. Pour l'heure, place à la musique avec l'écoute d'un des disques les plus attendus de ce début d'année 2020, sorti pas plus tard que vendredi et déjà dans le manche disque. Saurez-vous reconnaître de quel artiste il s'agit? Au pire, le mystère ne durera que 4 petites minutes puisqu'on en parle juste après. Le manche disque, émission 12 sur Radio G.
I'm not afraid to
Et vous aurez reconnu, bien sûr, la voix aérienne de Kevin Parker, le leader de Tame Impala, qui a donc sorti son quatrième et nouvel album, The Slow Rush, le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, coïncidence ou pas, je ne sais pas. Et le morceau qu'on vient d'entendre, c'est Is It True, voilà, un morceau représentatif de l'album. Que vous dire de ce nouvel album, sinon que j'étais loin d'être conquis avant, tant les morceaux sortis au compte-gouttes avant sa sortie ne m'avaient pas trop convaincu. Je trouvais que ça ressemblait trop à Currents, l'album précédent, et ça me donnait l'impression d'un enlisement dans un truc qui marche bien, qui vend bien, etc. Je me suis dit, tiens, voilà, le mec, il a arrêté l'ambition d'innover, hein, il veut avant tout vendre du scud. Et bien finalement, je dois dire qu'après écoute complète, j'ai été agréablement surpris quand même, je dois dire, par cet album. Alors bien entendu, c'est difficile de refaire l'effet bombe atomique jamais fait avant de Currents, mais je dois dire que Kevin Parker en avait visiblement encore sous le pied quand même, en termes de sonorité innovante, de mélodie efficace, voilà. Alors disons-le clairement quand même, avec cet album, Tame Impala va définitivement rompre avec son réservoir de fans de la première heure, hein, qui l'aimait pour ce qu'il a apporté au rock psyché, en fait, métissé toujours avec de l'électro, mais enfin voilà, il a toujours été identifié, quand il s'est lancé en tout cas avec son groupe Tame Impala, comme un acteur du rock psyché. Bon, là je pense qu'il tourne définitivement la page, c'est officiel, hein, bye bye le rock, bonjour la psyché pop, voilà, qui fait grincer des dents certains nombres de ses fans puristes. Au final, si on est comme moi, un peu plus éclectique dans ses goûts et du coup un petit peu moins exigeant en termes de style, on apprécie la fraîcheur de cet album qui sera à coup sûr repris dans nombre de pubs et génériques branchouilles style Canal+ et consorts. Alors est-ce à dire que Tame Impala sombre dans le commercial? Je ne sais pas. Le débat est ouvert. Vous pouvez y participer via notre page Facebook si vous voulez nous dire ce que vous pensez. Si vous aussi vous avez écouté cet album, voilà, n'hésitez pas à venir sur notre page Facebook Le Manche Disque, nous parler de ce que vous aura inspiré l'écoute de ce disque. Et faites-vous partie de ceux qui se sentent trahis ou au contraire accueillez-vous cet album avec enthousiasme, l'affaire est ouverte, voilà. Salut Julien.
Salut, salut.
Ça va?
Ça va.
Ouais. Bah, je crois que tu vas nous enchaîner
avec toujours
dans le psyché, un morceau qui nous parle tous les deux parce que c'est un frais souvenir.
Oui, effectivement. Et puis Tame Impala, c'est un peu déjà has-been, comme je l'ai dit sur la page Facebook. Pour moi, place aux jeunes, place à Gnooms. Gnooms, un groupe qu'on a eu le plaisir de découvrir avant-hier au Joker's Pub, ouais. Notre repère, notre bas de cave à nous.
Ouais, c'était très très bien.
Donc, qu'est-ce que c'est Gnooms? Eh bien, c'est quatre petits jeunes. Ils étaient trois il y a pas si longtemps. Mmh. Ils sont maintenant quatre. Ils nous sortent en 2019 un troisième LP qui s'appelle Mou. Point d'exclamation. Chacun de leurs albums se termine avec un point d'exclamation. Ouais. C'est très direct. Chaque titre est balancé comme ça à la face du monde.
Mais c'est loin d'être mou d'ailleurs.
Non, c'est loin d'être mou parce que ces quatre petits jeunes originaires de Perm en Russie arrivent à mélanger pourtant deux courants peut-être pas antinomiques mais quand même assez éloignés que sont le krautrock, ce rock allemand un peu planant avec cette batterie motorique qui est humaine mais qui semble issue d'une boîte à rythme, et le rock psychédélique. Donc pour le coup, là, je vous propose d'écouter le morceau Glasgow Coma State, qui est vraiment extrêmement efficace. Et puis, je ne peux que vous encourager à aller voir s'il passe pas très loin de chez vous.
Et je me joins à ces encouragements. C'était vraiment super bien en première partie de Sainte Carole pour le petit côté angevin. Allez, on s'écoute ça. In the city. We'll be right back.
Glasgow Coma State de Gnooms, donc ce groupe krautrock russe. C'est parfait. Mais je te propose qu'on reste un peu dans ces latitudes, longitudes, dans la région, en fait, avec un autre groupe dont j'ai envie de vous parler, mais non, on parle de la rubrique avant, je crois.
Ouais, hein. Si on se faisait une petite rubrique, ce serait pas mal.
Ouais.
Regarde, je vais lancer un petit peu le bed. Hop, notre fameux bed rubrique qu'on essaye de se mettre.
Faut parler à l'envers.
Voilà, c'est ça, faut un petit peu parler à l'envers.
La chaîne du son.
Si on peut. On va évoquer la chaîne du son et les différents éléments. Donc si vous êtes un débutant dans l'univers du vinyle, que vous vous demandez un peu par quoi commencer en termes d'achat, en termes de matériel, qu'est-ce qui est important d'avoir, quel budget un peu prévoir. Ouais. Déjà, définir les éléments qu'il faut et vous expliquer comment le parcours du son du vinyle jusqu'aux enceintes, ça peut être une bonne idée. Alors, on commence avec le premier élément.
La platine.
La platine, bien évidemment, puisqu'on va aller de la source vers la sortie du son. Donc, la platine, bien sûr, vous savez ce que c'est. Hein, c'est composé d'un plateau qui tourne. C'est ce qui fait la beauté du vinyle. C'est composé aussi d'un bras de lecture qui supporte une cellule qui elle-même supporte une petite aiguille qu'on appelle un stylus, qu'on appelle parfois à tort un saphir.
Ou un diamant.
Ou un diamant, mais en fait c'est un stylus, puisque c'est des termes qui se réfèrent un peu plus aux 78 tours, etc. Et ce stylus, eh bien, il vient rentrer dans les sillons du disque et il produit, avec le frottement donc de la rotation et les différents reliefs qui s'y trouvent, on fera peut-être une rubrique un peu plus spécialisée sur ce phénomène-là, il produit un petit son. Mais ce petit son, il faut savoir qu'il est extrêmement faible en termes de volume.
Mais vous pouvez l'entendre.
Mais il peut s'entendre quand même.
Ouais, à l'oreille, tendez l'oreille sans allumer le reste et vous entendrez un petit peu la musique de la platine.
Même sans allumer le reste, effectivement, simplement en mécanique. Mais c'est très 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 faible, tellement faible qu'un ampli vraiment devrait être ultra puissant pour tout seul amplifier ce son-là. C'est pour ça qu'avant ça, il y a le deuxième élément, Julien.
Le préampli.
Le préampli, tout à fait.
Alors le préampli, qui n'est nécessaire que sur les amplis qui ne dispose pas d'une entrée phono.
Alors ça dépend, parce qu'en fait, on peut dire ça, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que l'entrée phono signifie que dans l'ampli, il y a un préampli intégré, en fait.
Oui.
Donc en fait, il y a toujours un préampli dans la chaîne du son qui est soit intégré à la platine, c'est aussi possible.
Oui, les platines plus modernes les intègrent de plus en plus, j'ai l'impression.
Soit effectivement intégré dans l'ampli lui-même, et dans ce cas-là vous pouvez le repérer avec effectivement une entrée son qui s'appelle phono, qui est dédiée aux platines vinyles, justement parce que les platines vinyles sont les seules à émettre un son tellement faible qu'il faut les traiter auparavant. Le préampli, c'est un élément fondamental de la qualité du son que vous allez avoir, puisque en plus d'amplifier le son, il le traite vraiment beaucoup, du coup c'est vraiment un élément prédominant de la qualité.
Mais donc, si vous n'avez pas d'entrée phono sur votre ampli et que vous voulez quand même du vinyle, ne vous inquiétez pas, il existe des préamplis indépendants qui ne coûtent pas une fortune, que vous pouvez brancher entre la platine et l'ampli, et cette fois-ci sur une entrée auxiliaire comme n'importe quel lecteur CD ou MP3 ou je ne sais quoi.
Voilà, c'est ça. Donc en fait vous avez le choix, soit le préampli est dans la platine, soit il est dans l'ampli. S'il n'est dans aucun des deux, il faut l'acheter à part, c'est un petit boîtier qu'on rajoute dans la chaîne du son. Voilà. Donc après le préampli, forcément il y a l'ampli. Et l'ampli, forcément, c'est une deuxième source d'amplification. Avec le son qui est traité par le préampli, eh bien, c'est ce qui vous permet d'avoir du volume, justement, et de pouvoir balancer du volume aux enceintes. Donc là encore, un ampli n'est pas obligatoire si vous avez des enceintes amplifiées, forcément, puisque ça suppose que les enceintes qu'on appelle actives, au contraire des enceintes qu'on appelle passives, qui ne sont pas amplifiées, les enceintes actives disposent d'un système d'amplification intégré. Donc voilà, à chaque fois que vous avez l'impression qu'il n'y a pas besoin d'eux, finalement, c'est que l'élément en question est intégré dans l'élément suivant. Donc finalement, voilà, ça ne change rien à la chaîne du son. Donc pour ensuite, entre l'ampli, il ne reste plus qu'une seule étape avant vos oreilles, c'est
les enceintes.
Les enceintes, et là encore, je viens de vous dire, elles peuvent être actives. Dans ce cas-là, vous pouvez vous passer d'un ampli, ou passive ou pas. Voilà, donc en termes de budget, ce que je vous dirais quand même...
Et il y a le câble.
Alors le câble, on en parle après, parce que c'est la petite conclusion, parce que c'est ce qui fait le plus débat, je crois, dans le monde de la hi-fi. Voilà. Donc un petit budget, moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que des budgets minimum, quand même, parce qu'à un moment donné, la qualité, ça se paye. Et c'est pas possible de trouver quelque chose vraiment de très bonne facture, vraiment pas cher. Donc pour une platine, moi je donnerais un minimum quand même de 200 euros.
Ouais.
hein, et je pense que
entre 200 et 300, il y a de quoi se, il y a de quoi avoir un truc de bonne qualité. Ouais. Mais vraiment, alors il y a des platines qui montent jusqu'à 20 000 euros. Hein, c'est des sommes incroyables. Il y a des platines qui ressemblent à des vaisseaux spatiaux. Oui. Mais voilà, entre 200 et 300 euros, vous allez quand même avoir un truc qui s'appelle entrée de gamme, mais qui pour moi aujourd'hui, avec les technologies de nos jours, sont quand même très très performantes.
Ouais.
Je trouve.
Ouais, c'est ça. Trouve. En fait, voilà, là on parle de quelque chose que tout un chacun peut se payer quand il veut se lancer. On parle pas forcément du monde de la hi-fi qui est infini en termes de qualité, de variante, de prix. Là, on parle vraiment de, voilà, de quelqu'un qui lance sa collection. Donc, un minimum, quand même, c'est 200 euros pour la platine. Pour le préampli, bon, ben là, par contre, vous allez avoir des gammes de prix qui vont être quelque chose de très, très abordable, je crois, autour de 100-150 euros.
Oui,
vous pourrez trouver quelque chose, quelque chose de correct. Pour l'ampli, ensuite, ben alors ça, tout dépend. Hein, tout dépend de si vous visez du neuf ou du vintage, hein, parce que c'est ça aussi, hein, le monde de la platine et du vinyle, c'est aussi l'éternel débat entre neuf ou vintage. On va dire qu'un ampli de bonne facture, vintage, donc de seconde main, qui vous donnera satisfaction, il faudra quand même tourner autour des 200 euros quand même.
Ouais.
Et neuf, tu viens d'en faire l'acquisition, je crois, Julien,
ouais, entre
récemment.
300 et 400, quoi. 300, ça dépend 400, la puissance que vous comptez balancer dans les enceintes, puisque l'ampli doit bien s'accorder aux enceintes, effectivement. Ouais. Et tout ça est déterminé surtout par le volume que vous voulez et la pièce dans laquelle vous balancez la musique. La plupart des salons n'ont pas besoin d'enceintes et d'ampli de boîte de nuit. Hein. Donc 300 euros, ça peut suffire pour avoir un très bon ampli qui accueillera pas mal de sources, dont une entrée phono sans trop de soucis.
Complètement, et je rajouterai que pour les enceintes, c'est pareil, on est autour des 300 euros minimum pour moi pour des enceintes bibliothèques, donc c'est-à-dire le petit format
de
qualité plutôt correct en neuf. Voilà, on est sur un budget minimal de 300 euros, donc c'est vrai que ça s'ajoute un peu parce que 300 euros d'enceinte, 300 euros d'ampli,
300
euros de platine, enfin 200 on a dit, hein, donc ça fait 600, 800, je fais du calcul mental, plus 100 euros de pré-ampli, et bien ça fait effectivement 900 euros. Vous rajoutez là-dessus des petits câbles, tout ça, donc on est entre 900 et 1000 euros pour une installation, on va dire, tout à fait correct, qui vous fera longtemps, avec de la qualité, mais qui n'est pas effectivement le haut de gamme.
Non, mais quand on met cette somme là, je pense qu'après on entend vraiment la différence, c'est à dire qu'on n'est pas sur je balance du son sur mon home cinéma ou sur mes enceintes de PC qui sont elles-mêmes de bonne qualité, machin. Il y a moyen de se faire déjà très plaisir avec ça, de toute façon l'important c'est d'écouter de la musique, hein. Mais quand on est là-dessus et qu'on se pose, on entend les voix, on entend le chanteur qui bouge autour du micro, on entend bien les membranes des batteries, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de qu'interpelle.
Ouais, bah complètement, je suis assez d'accord. Alors c'est vrai qu'on avait dit qu'on parlerait aussi des câbles. On fait juste une petite phrase pour conclure, parce que on va vite enchaîner avec de la musique. Moi, ce que je vais vous dire sur les câbles, c'est que c'est important de prendre des câbles de bonne qualité, c'est-à-dire pas des trucs trouvés sur eBay à pas de prix du tout,
fabriqués en Chine,
fabriqués on sait pas où, parfois souvent en Chine effectivement, qui sont des trucs au rabais. Prenez des câbles corrects. Par contre, des câbles corrects, c'est quoi? C'est entre 5 et 10 euros le mètre, un truc comme ça.
Et faites en sorte qu'ils ne soient pas très très longs, c'est-à-dire essayez de regrouper vos éléments, parce que plus les câbles vont être longs, plus ils vont choper des petites saloperies qui traînent en termes d'électricité, et ça fera des petits crapotis, quoi.
Voilà, donc les conseils, c'est en termes de câbles, c'est prenez effectivement des câbles corrects, diminuez les longueurs, moins il y a de longueur, moins il y a de déperdition de son, mais enfin quand même, encore une fois, dans un salon de taille moyenne, vous ne trouverez pas des différences énormes par rapport à des longueurs, je veux dire, domestiques. Par contre, ne tombez pas dans la psychose, dans la folie des câbles ultra chers hi-fi haut de gamme qui coûtent 200 euros, etc. Ça, moi, pour moi, je pense vraiment que c'est une arnaque carrément. C'est-à-dire que là, il n'est plus question de qualitatif. Je pense que c'est du marketing, et qu'à un moment donné, quand on veut l'excellence, on peut acheter n'importe quoi, et les vendeurs et les producteurs de câbles le savent très bien. Autre dernier conseil que je vous donne dans une chaîne de son, achetez un ensemble qui est homogène. Ça sert à rien d'avoir une platine à 3000 euros qui est géniale et puis des enceintes pourries, parce qu'en fait la règle dans une chaîne de son, c'est que c'est toujours l'élément le plus faible qui fera la qualité de sortie. C'est à dire que imaginez-vous que c'est comme des tuyaux en fait d'eau, et bien c'est le tuyau le plus petit qui fera la pression à l'arrivée. Voilà. Donc ne faites pas des folies de vous dire je vais mettre 5000 euros dans ma platine, mais après je vais faire des économies sur le reste. Ça ne sert à rien. Plus vous aurez au contraire quelque chose de cohérent, et plus vous aurez pourrez tirer parti au maximum des capacités de votre équipement. On enchaîne avec de la musique.
Ouais. Soyol Erden sur Radio G. Vous écoutez le Manche Disque 101.5. On est avec vous jusqu'à minuit. Donc Soyol Erden, je vais vous en parler un petit peu. Je vous ai passé le morceau qui s'appelle Aswan. Bon, tout ça, c'est Aswan, c'est traduit, hein, parce qu'en fait, c'est un groupe mongol. Alors, où est-ce que j'ai découvert ça, vous allez me demander. J'en suis sûr. Eh bien, j'ai découvert ce groupe par le biais d'un site internet que je vous recommande fortement, puisque ça s'appelle Disque Obscur. Vous le trouvez sur disqueobscur.fr. C'est une référence pour les pépites méconnues, les différentes compilations modernes, les rééditions, etc. Donc là, ils ont présenté ce disque du label Everland et de sa subdivision Everland Psych, dont c'est la première production. Et il s'agit, avec cet album, du premier et unique album de cette formation mongole. Formé en 1971 en Mongolie à la demande du ministère de la culture de ce pays communiste, Soyol Erden devait être l'équivalent mongol des Beatles. Tout au long des années 70, ils vont sortir des singles. Il faudra attendre 10 ans. En 1981 pour que l'album sorte. On a dans tout ça, dans cet album, un mélange de sonorités 60s, de mélodies issues du folklore local et une petite touche psychédélique qui n'est pas pour me déplaire. Le label donc Everland fait bien les choses puisqu'il réédit cet album introuvable qui les originaux s'arrachaient à environ 500 €, pardon. Et ils en profitent pour changer la couverture. Mais alors cette fois-ci, pour le coup, c'est pour la bonne cause. Puisque d'habitude, moi j'aime bien quand les couvertures restent les mêmes que celles d'origine. Sauf que là, à l'époque, les autorités avaient changé les photos. Et on avait un faux groupe qui n'était pas du tout les membres de Soyol Erden. Et là, avec une très belle mise en page, si je puis dire, avec en gardant l'esprit de l'époque et du lieu, etc., mais on a cette fois-ci une photo avec les différents membres de ce groupe mongol, donc les Beatles mongols. Je crois qu'il n'y a que sur Radio G que vous pouvez entendre ce genre de choses.
Et spécialement dans le Manche Disque, je crois. Ben écoute, on va enchaîner avec beaucoup plus proche de nous là. On était parti un peu dans l'exotisme. Là, on va enchaîner avec une autre sortie récente de ce que je considère être un monument de la chanson française et de la musique française qu'on a déjà écouté dans le Manche Disque. J'ai nommé Brigitte Fontaine, son nouvel album qui est sorti fin janvier dernier, qui s'intitule Terre Neuve et qui commence déjà à se faire rare. Donc, si vous aimez ce que vous allez entendre tout à l'heure, ne tardez pas. Donc si on a déjà passé du Brigitte Fontaine, c'était vraiment dans ses premiers albums, dans les années 60, là vous allez voir qu'on va mesurer ensemble un gap hein, quand même, et les effets de son parcours artistique, des rencontres sans doute, et quand même parce qu'il faut le dire, les effets du temps aussi hein, sur l'œuvre de Brigitte Fontaine. Je dis ça sans la moindre dimension péjorative, hein, mais comme vous pourrez le constater, après des débuts assez classiques, un peu jazzy, et des escapades dans la pop aussi dans les années 90-2000, on est arrivé à une période plutôt sombre apparemment d'après cet album, hein, très brut de Brigitte Fontaine, qu'elle exprime par des sonorités plus rock cette fois-ci, toujours sous l'égide de son inséparable Areski Belkacem et accompagné en plus par le précieux Yann Péchin pour la guitare. Le morceau que je vais vous passer, il s'appelle Chrysler et c'est pour un public relativement averti quand même.
Montons-les. Lucifer en driver, moi derrière, asperger, la crinière en geyser, buzz hyper dans mes cernes, ma cruche, tête en l'air, jaillit vers l'astre vert. Non, Vesper. Lucifer. Conduire. La lumière. Ma Chrysler. Ma Chrysler. Bonbonnière. Rose chair. Montgolfière, rocking chair, planétaire, true, les sphères, Lucifer en driver, moi derrière, fleur de serre, tau galère. Thank you. terre. Ciao galère. Lucifer, ange fier, moi derrière, douce amère, on va vers la matière tout entière, la chaudière, cœur ouvert, les rivières diamantaires, vert. La guerre, jolie guerre, chair sur chair, au vin, au vin, au vin.
Fabio Frizzi, les amis.
Can I kick it?
Yes, you can.
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 Well, I'm gone. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Before this, did you really know what live was? Comprehend to the track force, why? Cuz getting mentions on the tip of the vibe buzz. Rock and roll to the beat of the funk fuzz. Wipe your feet really good on the rhythm rug. If you feel the urge to freak, do the jitterbug. Come and spread your arms if you really need a hug. Afrocentric living is a big shrug. A life filled with, that's what I love. A lower plateau is what we're above. If you diss us, we won't even think of. We'll nip of the dog and give a big shove. This rhythm really fits like a snug glove. Like a box of positives, it's a plus love. As the trial flies high like a dove. We'll be right back.
kick it?
Yes, you can.
Can I 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 kick it?
Yes, you can.
Well, I'm born.
Born, then.
Can I kick it? To my tribe that flows in layers. Right now, Fife is a point sayer. At times, I'm a studio conveyor. Mr. Dinkins, would you please be my mayor? You'll be doing us a really big favor. Boy, this track really has a lot of flavor. When it comes to rhythms, Quest is your savior. Follow us for the funky behavior. Make a note on the rhythm we gave ya. Feel free, drop your pants, yeah, yeah, hey, yeah. Do you like the garments that we wear? I instruct you to be the obeyer. A rhythm recipe that you'll savor. Doesn't matter if you're minor or major. Yes, the tribe of the game with a player. As you inhale like a breath of fresh air.
Ce n'est pas si courant du rap dans le manche-disque, même si on aime bien ça. Et juste avant, c'était Fabio Frizzi, comme je vous l'ai brièvement annoncé. Fabio Frizzi pour la musique du film Luca il Contrabandiere, plus connu chez nous sous le nom de La Guerre des Gangs. C'est un film de 1980, ce qu'on appelle un néopolar ou un polidiotesco, un petit peu fascistoïde sur les bords, mais bien sympathique. Enfin, celui-là, pas plus qu'un autre, hein, en fait. Un film de 1980. Alors, qui est Fabio Frizzi? Je vous le présente en deux secondes. Un compositeur né en 1951 en Bologne et un collaborateur régulier du maître Lucio Fulci. Cette BO, Luca il Contrabandiere, a été rééditée chez Death Waltz Recording Company il y a très peu de temps.
Et juste après, tu l'as dit, un petit peu, on a enchaîné avec du hip-hop, du groupe que j'adore, de old school américain, Tribe Called Quest, un groupe issu du Queens à New York, formé en 1985. Est-ce que tu connais le Queens de New York,
oui.
Julien? C'est un quartier bien pourri. C'est le quartier des reines, comme dans le film Un prince à New York.
Ouais.
Ça donne une idée à ceux qui ont vu le film du côté un peu pourri. Voilà. Mais il en sort parfois des super trucs, et surtout en matière de hip-hop. Donc amené par son leader Q-Tip, un tyran obsessionnel de la précision des productions des instrus, qui parfois demande de tout effacer pour repartir de zéro dès qu'il y a un truc qui va pas, pour pas sombrer dans le rafistolage. Le groupe, il sort son premier album en 90, People's Instinctive Travels and the Path of Rhythm, et on s'est écouté Can I Kick It, un morceau qui représente bien le groupe puisqu'il s'aventure dans des samples pop rock. Vous aurez reconnu certainement Walk on the Wild Side de Lou Reed,
la ligne de basse, hein.
Et en 90, c'est pas évident dans le monde du hip hop de reprendre des samples de pop rock. Ils sont quand même parvenus avec un morceau qui a toute sa place dans l'histoire du hip hop puisque ça a été un morceau emblématique de l'album qui a eu beaucoup de succès. Voilà. Et on va enchaîner avec quelque chose qui va bien nous intéresser,
ouais,
puisque tu veux
bien
nous parler de la Library française.
De la Library française, effectivement, avec ce disque qui s'appelle Musax Volume 1 du Musax Background Music Library. Donc Musax, en fait, c'est un catalogue d'illustrations musicales français lancé à la fin des années 70 sous la direction de Jackie Giordano. Le label était hébergé dans les locaux de Eddie Warner dans le Paris, dans le 16e arrondissement. Eddie Warner, le fameux de Progressive Percussions, pour ceux qui connaissent ce disque, assez rare en vinyle, mais qui est très très bon. Alors, Musax, là, pour ce volume 1, c'est deux faces. La face A est plutôt jazz funk avec la Crazy Team 79, dont la base était formée de l'orchestre du Crazy Horse. Et la face B qui nous intéresse ici est plus synthétique et elle va accueillir des pionniers de la musique planante comme JP de Cerf, Patrick Petitbon, Gérard Guézina, un compositeur que vous connaissez peut-être pour sa musique puisqu'il a fait le générique de 7 sur 7, ainsi que Jackie Giordano sous le pseudonyme de Joachim Cherilli. Alors à qui on doit cette superbe réédition des meilleurs morceaux de Musax ? C'était des morceaux de 78-79 et là c'est un disque de 2020. Eh bien on doit ça à Farfalla Records, Farfalla pour papillon en italien. C'est une maison de disques et un label indépendant spécialisé en library music qui ont sorti donc d'autres petites productions. Et là, c'est la première qu'ils consacrent à Musax. Et je vous propose d'écouter le morceau qui s'appelle Iceberg, tempo lent, thème piano sur corde synthétique de ce fameux mystérieux Joachim Cherilli. Thank you. Iceberg, donc de la compilation Musax et Farfalla Records.
Ouais, on les remercie bien, Farfalla Records, pour ce genre de petites pépites, tant on aime la librairie au manche disque. Et bah, c'est déjà l'heure pour nous de couper les micros, hein, Julien.
Ouais, exactement.
Et de laisser la parole à notre invité du soir qui fait office de dinosaure de la radio comparé à nous. Hein. J'ai nommé Fred, animateur de l'emblématique émission rock de Radio G. Ça dégouline dans le cornet. Et Fred, c'est un grand amateur de disques vinyle et il va nous en parler. Il nous fait l'amitié donc de répondre aux traditionnelles questions du manche-disque et il conclura l'émission avec un morceau qui lui est cher. Bon, ben, les aficionados de sa dégouline dans le cornet l'auront compris. Attendez-vous à quelques guitares qui grincent. Quant à nous, on vous dit à dans 15 jours, même heure, mêmes ondes.
Bye bye.
Celle de Radio G. Ciao. Donc, nous sommes avec Fred. Fred,
oui.
Un compère, confrère de
oui.
Radio G.
Exactement.
Présentateur d'une émission qui s'appelle « Ça dégouline dans le cornet ».
Qui a lieu le mardi soir de 22h à minuit, en alternance avec une autre émission métal qui s'appelle « Caresse métallique ».
Ouais, et depuis un certain nombre d'années, je crois.
Eh ben moi, ça fait depuis fin 97, début 98.
Ouais, donc ça commence à faire, à faire du temps sans vouloir te vieillir, Fred.
Mais oui.
Écoute, je te laisse te présenter peut-être justement, nous parler un peu de ces années et de l'émission. Et puis ensuite, on enchaînera sur les questions rituelles
oui,
du manche-disque.
Le classique du manche-disque, effectivement. Comment me présenter ? Alors Fred, oui, voilà, sur Radio G, donc le 101.5 FM depuis pas mal d'années, effectivement, 97. Gros passionné de musique, on va dire, voilà, passionné de vinyle notamment. C'est, je pense que c'est le but de l'émission.
Ouais, j'allais dire, ça tombe super bien.
Voilà, exactement. Ça dégouline dans le cornet. Du coup, c'est une émission qui a commencé en 92 à l'initiative de Philippe, donc Philippe Rabin, qui est le boss entre guillemets de l'émission. Ça dégouline dans le cornet. C'est une émission qui, en fait, disons, on se marre bien. Voilà, c'est il y a eu une bande de potes assez soutenue. On a eu Jim notamment, on a eu Paul dans l'émission, il y a eu Ludo, faut pas l'oublier, il y a eu Francky aussi, ça c'était dans le tout début en fait de l'émission. Il y a eu Claire, il y a eu Lucie, il y a eu Thomas, mon meilleur ami en fait, hein, voilà. On passe à peu près du son qui va être aussi bien du rock, du punk, que ce soit des années 80, 90, des années 2000. Parce qu'il y a la relève en fait qui est arrivée il y a pas si longtemps que ça, là, vu que là on est en 2019. Il y a Vincent qui est arrivé, il y a Félix aussi, le jeune Padawan comme j'aime bien l'appeler, qui joue également dans un groupe angevin en fait qui s'appelle Lane. On attend un petit peu avec impatience leur nouvel album là, qui devrait sortir dans le courant de l'année 2020.
Et puis donc c'est pas un hasard si t'as amené donc des disques
oui.
auxquels tu tiens, mais uniquement en vinyle. Donc
entre autres, oui.
Voilà. Parce que la première question de l'interview du
oui.
manche disque, c'est que tu nous donnes, que tu essaies de nous donner en tout cas ton explication sur ce retour en force
du vinyle,
ouais. qui il est vrai n'a pas tout à fait disparu,
non.
mais en tout cas qui à un moment donné était quand même dans le creux et était largement remplacé par le CD.
Exact.
Oui, donc ton explication du vinyle, du retour en force du vinyle,
yes.
Qui a récemment dépassé le CD en termes de vente.
Ah cool,
j'ai appris.
Voilà. Tu as appris ça, d'accord.
Ouais, ouais.
Ok, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors moi, les premiers vinyles que j'ai achetés, ça a été du coup à Black & Noir. Donc forcément, il y a un des magasins qui est sur Angers, hein, pour citer, si on remonte dans l'historique. Ça a été un album de Hall. Groupe de Courtney Love, voilà. Ça a été également aussi les premiers Nirvana, parce que bon, je pense que je suis de la génération 90, on va dire, du côté rock, hein, pas côté boys band et tout le tralala, quoi. Ça a été forcément de fil en aiguille après Sonic Youth, les Tugs. Alors du coup, pour revenir à ta question, Nico, pourquoi le vinyle revient en force ? Je pense qu'il a jamais vraiment été, il a toujours été là en fait, le vinyle. C'est un bel objet, tu te poses dans ta maison, tu lèves ton bras de ta platine vinyle, tu poses ton disque, t'appuies sur play, et puis t'écoutes la musique, et voilà, et puis c'est disons un voyage, quoi. Enfin, c'est toute une expérience, c'est des choses comme ça, quoi. Après, ça peut ramener dans le passé, dans le présent, le futur, enfin, je sais pas, quoi, mais des petites choses vraiment sympas, quoi, le fait que ce soit un objet. Je pense que c'est aussi pour ça que les gens veulent acheter un objet, parce que c'est beau, c'est bien beau le numérique et les MP3 et tout le tralala, mais il n'y a pas la chaleur du son, il n'y a pas tout ça, quoi.
Ouais, le dématérialiser, voilà. À ses limites, quoi.
Exactement, on est bien d'accord.
Et le vinyle, c'est vrai que c'est peut-être le contraire vraiment du dématérialisé, tellement c'est physique, tellement il y a de manipulation, tellement il y a une grande pochette, voilà, des visuels.
Ouais. Ça peut être sympa pour les photos aussi également, quoi. On peut se marrer. Enfin bon, voilà. Je pense que le vinyle a toujours, toujours existé, il existera toujours, et puis. Il y a des bons disquaires sur Angers, on va pas les oublier, comme Wax par exemple, et puis Exit Music for a Drink, CDBD aussi, ils en font. Et on a la chance aussi d'avoir Ovnil, en fait, sur Angers, qui est une boîte qui fait de la fabrication de disques vinyle à l'unité. Et ils font vraiment des bons objets, et ça c'est très bien, quoi.
Et alors, tu nous as parlé des premiers vinyles que t'as achetés, mais peut-être que tu pourrais nous parler maintenant de ta première expérience d'écoute de disque vinyle. Donc ça remonte peut-être un petit peu avant tes premiers achats.
Ça remonte un petit peu, effectivement. Alors ça devait être à la maison, chez mes parents. La première platine que j'ai eue, c'est la platine de mon grand-père, qui s'appelait Paul. Donc bah, paix à son âme, hein, voilà. Mais je pense que c'est là où j'ai usé les premiers sillons et mon père qui m'engueulait parce que du coup j'écoutais des disques dans ma chambre, voilà, bref. Et c'était cool. Enfin voilà, c'était tout un univers, toute une chose, quoi. Ça me permet de revenir dans le passé un petit peu, effectivement. Mais j'ai toujours été fan de musique, fan de disques et de vinyle. Et ouais, je me souviens bien effectivement de la platine vinyle chez mes parents, quoi, où tu poses le disque, le sillon, et c'est des boutons. Enfin, c'était pas les platines comme on a aujourd'hui, comme les Technics par exemple. C'est des boutons qu'on tournait, quoi. Il y avait l'ampli limite intégré dedans. Enfin, c'est des petites anecdotes qui sont hyper sympas, quoi.
Est-ce que tu te rappelles du son qui passait chez tes parents?
Le son qui passait chez mes parents, ouais. Alors, on va dire des choses que je n'écoute pas forcément du tout aujourd'hui.
C'est ça qui est drôle.
C'est ça qui est drôle, ouais. Il y avait du Jean-Jacques Goldman, il y avait du Mireille Mathieu, il y avait des trucs un peu old school, parce que forcément, ils sont pas si jeunes que ça, mes parents. Mais après, ouais, qu'est-ce que je... Pouah. Si, le super truc, les grosses claques que je me suis pris musicalement, ça a été Dire Straits, dans les premiers albums. Jimi Hendrix, par un collègue de boulot à mon père, du coup. Voilà, c'est comme ça après que ça s'est fait, quoi, au fur et à mesure.
Donc le rock s'est invité aussi
à la maison, tout à fait.
Durant ton enfance, quoi.
Ou l'adolescence, on va dire.
Adolescence,
ouais, adolescence, ouais.
Ok. Et alors, tu nous as parlé donc des premiers disques que tu as achetés.
Oui.
Tu en as certains devant toi. Si tu devais en choisir un seul et nous en parler, ce serait lequel?
Ah, c'est pas simple comme question. un seul, bah, je dirais 19 Something Dead Eggs. Parce que voilà, ils ont fait partie, dans certains moments de la vie où ça va pas, et bah, on a la musique qui permet de se raccrocher et de repartir, quoi. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Donc, monument angevin, ouais, et monument, ouais, du rock tout court.
Oui, entre autres, ouais. Et puis rock français. Et en autre disque, il y a Ofoam aussi, parce que je voulais faire un petit coucou au passage à la scène de Montpellier. Et des potes, en fait, il y a un lien avec Ça dégouline dans le cornet. C'est une émission qui s'appelle Joining the Circus, en fait, qui avait lieu sur Montpellier. Guillaume, maintenant, est sur Paris. Pour les concerts, il fait pas mal de choses. Et au Forum, c'est un groupe de Montpellier. Bon, la France est petite, hein. La scène musicale française est assez petite aussi également. Et ouais, au Forum, c'est un des derniers coups de cœur. Là, c'est pas le dernier album que j'ai sous les yeux, mais. Ils ont sorti un disque il y a pas si longtemps que ça, qui a un côté un peu spatial, un peu quand tu vois la pochette, effectivement, c'est, ouais, bon, c'est pas forcément hyper joyeux, mais
non, mais
c'est le côté artistique qui parle, quoi.
C'est effectivement très fantastique,
tout à fait,
voire science-fiction. Ouais. Est-ce que tu te définis comme un collectionneur, Fred, de vinyle?
Oh que oui.
Alors okay. Je vais... C'est clair au moins.
Oui.
Parfois c'est hésitant les réponses là.
Non,
mais,
là, non, là,
toi,
oui,
c'est
clair
et net.
Clair et net, oui. Bon, la collection est assez importante à la maison, mais j'en dirai pas plus. Voilà.
Tu veux pas nous donner le nombre de vinyles que t'as?
Je sais pas, j'en ai peut-être 400, quoi, un truc comme ça à la maison, quoi.
Ouais, donc ça commence à prendre de la place.
Ça va, on s'arrange avec madame.
Voilà, c'est ça. C'est négociation.
Oui, bon, y a quelques caisses de pommes. J'ai fait en fait mon meuble personnellement. J'aime bien travailler le bois aussi, quoi. Ça change un peu de mon métier. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, il y a 6 caisses à pommes, quoi, qui ont été fabriquées. Enfin, c'est un meuble fait maison.
Ça aussi, c'est un effet du matériel. C'est qu'après, faut en faire quelque chose.
Mais tout à fait. Ouais. Plutôt que d'aller en grand magasin acheter un meuble, autant le faire soi-même.
Ouais, et puis c'est pas une playlist sur un téléphone, quoi.
Ouais.
Donc ça prend un peu plus de place que ça. Donc il faut bien le ranger, le classer, tout ça. C'est tout un pan d'ailleurs de la collection. Ça, dans quel ordre les classer, comment les retrouver, quel est le plus pratique.
Voilà. Alors pour moi, c'est pas la partie autobiographique, hein, comme dans un certain film.
Ouais.
C'est à ordre alphabétique. Après, il y a aussi quand même un côté historique, un petit peu, un côté fun, quoi. Tiens, tel disque, tu le vas l'écouter à tel moment et pas à un autre moment. Enfin, au café du réveil ou à l'apéro, tu vas pas écouter les mêmes morceaux, les mêmes disques, quoi, tu vois. Je pense que t'es un peu pareil que moi, Nico, par rapport à ça, j'imagine.
Oui, oui, ben oui, on est tous, je pense, on a tous...
Méloman.
Exactement, ouais. Tu as maintenant la tâche de nous choisir un morceau.
Un morceau,
voilà,
d'accord.
Pour conclure l'émission.
Exact, voilà. Cool.
Donc, on est tout ouïe.
Eh ben, ça va être Arco Iris. Coucou les potos aussi également. C'est en sortie chez Your Letter Records. Ça va être en hommage à Mathieu Bierne qui est décédé en 2011. Hein, voilà. Je vais vous passer du coup le morceau de Arco Iris. Juste pour info, en fait, c'est des mecs qui jouaient dans Atomic Garden avant. Voilà. Et on va vous passer le morceau donc dans l'émission Le Manche Disque sur Radio G. Drawing in a Drop of Water.
Alors on voit l'animateur d'expérience là.
Oui, merci Nico, à toi en tout cas.
Ben merci surtout à toi Fred, ouais, de t'être prêté au jeu, et on va écouter ce morceau avec grande curiosité. À plus.
À plus tard.